La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri. La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence. Merci de votre fidélité à l'écoute de la mêlée de l'info avec trois invités comme chaque semaine pour débattre des sujets à la une de l'actualité nationale. Je salue Guillaume Agulot, référent Occitanie du Printemps Républicain. Je salue aussi Thibaut Casal, enseignant, coordinateur du parti Génération pour la Haute-Garonne. Et je salue enfin Alexis Chanu, membre des Jeunes Républicains de la Haute-Garonne. Bienvenue aussi à tous les trois. Merci d'être au rendez-vous de la mêlée. Il y a 10 ans, jour pour jour, le 13 novembre 2015, une série de fusillades et d'attentats suicides perpétrés par des terroristes islamistes à Paris et dans sa périphérie causaient la mort de 132 personnes et faisaient plus de 400 blessés. Au Stade de France, à des terrasses de cafés et restaurants des 10e et 11e arrondissements et au Bataclan, nous commémorons donc aujourd'hui le 10e anniversaire de l'événement le plus meurtrier du 21e siècle en France. Tout d'abord, bien sûr, nous aurons une pensée pour toutes les victimes de ces attaques et pour leurs familles et leurs proches en ce jour de commémoration qui survient peu après qu'un habitant de l'île d'Oléron, s'étant radicalisé sur le net, a foncé en voiture sur la foule alors qu'un attentat projeté par trois femmes a été déjoué de justesse à Paris et au moment où l'ex-compagne de Salah Abdeslam, je rappelle que c'est le seul survivant du commando terroriste de novembre 2015, donc son ex-compagne est soupçonnée d'avoir fomenté elle aussi un projet d'attentat et d'avoir remis une clé USB illicite à son ancien compagnon emprisonné. Dans ce contexte, après ce nouvel attentat et ses révélations récentes, avez-vous le sentiment qu'un événement similaire à celui d'il y a 10 ans pourrait encore avoir lieu, voire que le risque qu'il se répète n'a jamais été aussi grand depuis l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice? C'est Guillaume Agulot qui va s'exprimer le premier.
Bonsoir et merci beaucoup pour votre invitation. D'abord, effectivement, vous dire toute l'émotion qui est la mienne ce soir à parler pour ce jour anniversaire du 10e anniversaire donc des attaques terroristes islamistes du 13 novembre 2015 à Paris. Pour plusieurs raisons, toute une série de raisons, mais et notamment aussi parce que ben, le mouvement dont je suis le référent ici en Occitanie, le Printemps Républicain, est directement né, est directement issu de cette période-là, et c'est au printemps suivant, effectivement, en 2016, que nous sommes quelques-uns, pas nombreux, mais nous sommes quelques-uns à avoir retrouvé suffisamment d'énergie pour enclencher ce que nous avions dit à ce moment-là. Il faudra aussi revenir au combat, et c'est ce que nous appelons aujourd'hui de la mémoire au combat, passer de nouveau à cet engagement militant et pour essayer de comprendre un petit peu ce qui s'était passé. 10 ans après, on en est où? 10 ans après, je ne sais pas si la menace a jamais été aussi haute. Par contre, ce que je sais, c'est que la menace est extrêmement présente. Et je vais formuler autrement votre question. La question n'est pas de savoir si un nouveau Bataclan, terrasse, aura lieu. La question, c'est quand. La question, c'est quand. On en est clairement là. Aujourd'hui, vous l'avez dit, nos services de renseignement territoriaux font un travail formidable. Parce que ben, y a eu des ratés, il faut se le dire aussi hein, tranquillement. On a raté des choses, on n'a pas vu certaines choses, on n'a pas suffisamment anticipé. Le courage de ces femmes et de ces hommes dans ces services-là, c'est qu'ils arrivent à dépasser cette sidération-là et cette responsabilité, voire peut-être même cette culpabilité de ne pas avoir su, pour avoir cette force d'entreprendre une réflexion. Pour ne pas rater les fois suivantes, ou moins rater les fois suivantes, ou moins mal faire, ou mieux faire. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans le mieux faire. Ça suffit pas. Ça suffit pas, parce qu'aujourd'hui, la menace, elle est protéiforme. D'abord, il y a une menace extérieure, ce qu'on appelle la menace projetée, celle qui revient ici, qui est en train de se reconstituer. C'est l'État islamique au Khorasan, qui est en train de se réorganiser, de se restructurer, et qui recommence à tester des filières de passage, on le sait. On le sait. Pas encore de passage à l'acte, mais de passage, de retour ici, par des moyens divers et variés, sur les territoires européens, dont la France, puisque la France est particulièrement ciblée. Et puis, il y a une menace téléguidée. C'est celle d'Internet, hein, essentiellement. Alors, elle concerne, par exemple, hein, cette personne que vous mentionniez, effectivement, sur l'île d'Oléron, elle concerne beaucoup les jeunes, elle concerne beaucoup les femmes. Ça, aujourd'hui, on est en train de voir, c'est une nouveauté, c'est-à-dire que les femmes que nous voyions dans les étapes précédentes, qui étaient, on va dire,
en deuxième rideau,
à l'arrière-plan, sur l'organisation, sur la structuration, sur l'intendance, elles sont en première ligne. Elles sont en première ligne et je suis très étonné qu'il n'y ait qu'une seule cellule qui ait été arrêtée. J'ai peur qu'il y en ait d'autres quand on voit ce qui se passe, c'est-à-dire au quotidien, y compris dans nos missions et nos métiers professionnels. On voit très bien qui sont ceux qui se radicalisaient il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, et qui sont celles qui se radicalisent depuis 2-3 ans. Parce que là, vraiment, on peut vraiment quasiment passer sur une bascule de ce niveau-là. Donc on a une menace projetée, on a une menace téléguidée, puis on a une menace interne. Et cette menace interne, elle continue aujourd'hui d'être manipulée. Ce sont des jeunes, essentiellement, pas que, mais essentiellement des jeunes qui sont français, hein, qui sont nés ici, sur nos territoires, et qui sont souvent manipulés, très très souvent manipulés, qui sont orientés, qui sont armés idéologiquement et de plus en plus armés à tous les niveaux. Et on voit très très bien ce qui est en train de se passer au niveau de la jeunesse d'usage des armes de guerre, pour les guerres de gang, hein, pour le contrôle du trafic, du narcotrafic, puisque ben, on y est toujours sur les mêmes choses, hein, faut pas se leurrer. Est-ce que vous sentez, du coup, vous comme moi, que ce passage de l'utilisation d'armes de guerre sur le narcotrafic est possiblement en train de glisser, de diffuser? Et celle-là va être extrêmement difficile à appréhender, y compris parce que, heureusement, alors que nous avons subi, et notamment en 2015, une violence hallucinante. 2015 est une année absolument charnière, c'est une année terrible. Hein. Elle commence avec Charlie Hebdo, elle se termine avec le Bataclan et les terrasses. N'oublions pas dans l'intervalle qu'il y a eu le Thalys.
Oui.
S'il n'y a pas ces trois militaires américains qui savent reconnaître le bruit d'armement d'une arme automatique, vous imaginez le carnage dans un train lancé à pleine vitesse. Mmh. Il y a eu également à Saint-Quentin-Fallavier ce chef d'établissement d'une usine Seveso qui est décapité par son ancien chauffeur.
Oui, enfin,
2015
aussi,
est une année absolument terrible, absolument épouvantable. Il est possible que d'autres 2015, malheureusement, effectivement, nous attendent. En 2015, on n'a pas lâché. En 2015, les digues, comme on dit souvent, ont tenu, c'est-à-dire que le corps de l'État, mais surtout le corps de la nation, a tenu. On a attaqué la liberté, ils ont attaqué la liberté, ils ont attaqué l'égalité, ils ont surtout attaqué la fraternité. Ça a vacillé, c'est difficile encore aujourd'hui, hein. On va pas se mentir,
ça tient.
Nous tenons, et là c'est vraiment un nous collectif, nous tenons, nous avons tenu, j'espère que nous tiendrons. Ce qui est, je suis pas sûr en tout cas qu'on ait, au bout de 2, 3, 4 fois, la même résilience. Ma grosse inquiétude, elle est là parce que les fissures, elles sont lourdes, elles sont larges, elles sont profondes. Et puis, on ne va pas se mentir, on est aussi en train d'aujourd'hui assister à une volonté manifeste, appuyée, lourde, de la part de certains bords politiques, de dédouaner d'excuser, de justifier. Alors, on a évidemment là, cette députée LFI de l'Hérault, de Montpellier, qui nous sort cette phrase et qui, en plus, dit « j'ai jamais dit ça ». Enfin, bon, on est là dans l'ubuesque absolue, mais on est dans la gravité absolue. Et ça, on ne l'avait pas en 2015. Être à ce point fragilisé de l'intérieur, y compris par des représentants de la nation, mais pas que, ça, nous ne l'avions pas en 2015. Le changement, il est là. Il n'est pas tellement dans le spectre de la menace. Elle était déjà parfaitement identifiée. Le changement, il est peut-être dans les capacités de résilience de la nation que je n'identifie pas au même niveau, à la même capacité. J'espère
la
être...
La capacité de faire bloc.
Ouais, la capacité de faire bloc, moi, m'inquiète profondément.
Bon, après cette première intervention, j'allais dire très pessimiste, de Guillaume Agulot, Thibaut Casal, vous, est-ce que vous êtes un peu sur la même longueur d'onde que Guillaume? Ou est-ce que vous mettez des nuances tout de même?
Merci pour l'invitation. Alors, vous avez commencé par le rappeler, mais c'est toujours bien de le redire, que en ce jour, on a quand même une vraie pensée pour l'ensemble des victimes. Et les victimes, c'est à la fois celles et ceux qui ont été assassinés, mais aussi les blessés, et puis toutes les personnes qui ont été traumatisées. Enfin, moi, je me rappelle, ça me fait encore quelque chose de le dire, mais moi, j'étais au lycée à ce moment-là. Je me rappelle la rentrée du lundi, et je suis né le 16 novembre, et du coup le lundi c'était le 16 novembre. Donc, et pour mon anniversaire, en fait, en quelque sorte, on se retrouve en fait à être dans la cour avec des personnes en larmes, alors que personne ne connaissait au lycée Clément Marot de Cahors quelqu'un qui était au Bataclan ou sur les terrasses ou aux abords du Stade de France.
C'est ce que disait Guillaume, tout le monde avait été frappé.
Exactement, voilà,
tout
c'était
le corps
ça.
De la nation.
Et c'est vrai que, moi je me rappelle typiquement, d'avoir serré dans mes bras des personnes que j'appréciais pas forcément, quoi, mais qui étaient vraiment en larmes. Donc oui, on est arrivé à ce moment-là à se dépasser, et heureusement, parce que si on n'y était pas arrivé, ils auraient gagné. Donc en 2015, quoi qu'il arrive, je me rappellerai aussi toujours de cette image de François Hollande qui arrive, qui est applaudi par l'ensemble des députés et des sénateurs. Et moi-même, à ce moment-là, j'étais le premier à être très critique de François Hollande. Mais dans ce moment-là, le symbole était fort. Je ne sais pas si aujourd'hui, si une telle chose se déroulait, si Emmanuel Macron, rentrant dans la salle, aurait la même... il y aurait la même réaction de la part de tout le monde. Et donc c'est là où oui, moi aussi je me pose la question de est-ce qu'on est capable encore de faire qu'un, dans le sens où on le voit aussi dans la violence du débat aujourd'hui, du débat politique, du débat même en général, où je trouve qu'en 10 ans, il y a eu, mais alors on a vraiment cassé, on s'est déporté au niveau de la fenêtre d'Overton à ce niveau-là sur la violence en politique et sur les termes qu'on utilise, sur comment on en vient à vraiment attaquer des attaques mais méprisables qui n'apportent rien au débat, qui fait qu'aujourd'hui, moi je trouve que le débat politique est très appauvri comparé à il y a quelques années. Ça va aussi avec un casting politique qui est peut-être aussi... de moins bonne qualité. Mais bon, moi je pense que je sais pas si en fait la menace est aujourd'hui plus grande qu'elle ne l'a été depuis 2016. Je saurais pas le dire. Je pense aussi que on a nos services de renseignement et l'ensemble des forces qui s'occupent de ça, qui font leur travail, qui le font bien. Et donc moi j'ai confiance en eux. Pour cette raison, pour ça, j'ai réellement confiance en eux. Donc, je ne sais pas si le risque d'attentat islamiste est plus gros aujourd'hui qu'il ne l'était avant. Je pense, par contre, que le risque d'attentat dans son ensemble, lui, par contre, oui, est plus présent qu'avant. Quand je regardais, j'ai regardé des pages où je voyais le nombre d'attentats déjoués ou d'attentats qui se sont malheureusement déroulés, etc., sur les dernières années. Une majorité, c'était des attentats islamistes. On retrouvait aussi des attentats en Corse et on retrouvait des attentats de figures de l'extrême droite aussi. Et c'est ça, en fait, je pense, aussi la différence avec il y a 10 ans. Où il y a 10 ans, quand on parlait de terrorisme, obligatoirement, on pensait au terrorisme islamiste. Aujourd'hui, moi, je le vois notamment auprès de certaines amies qui ont peur, pas que des attentats terroristes, qui ont peur des attentats masculinistes, qui ont peur de ce genre de choses. Et c'est là où... là, par contre, si la question, c'était juste le danger d'avoir des actes terroristes tout court, si ça, c'est la question, oui, je pense que ça n'a jamais été aussi grande. Là, oui, ça, je le pense. Donc... C'est un vrai problème qu'il faut attaquer et qu'il faut pas balayer, c'est-à-dire dire que le terrorisme c'est que ça ou que ça. Non, le terrorisme ça a plusieurs formes et il faut y faire attention. Il faut le combattre sous toutes ses formes, pas seulement le terrorisme. C'est pas parce qu'on est de gauche qu'on va parler que du terrorisme d'extrême droite, bien entendu. C'est pas parce qu'on est de droite, je pense, qu'on va parler que du terrorisme islamiste. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive enfin à apaiser le débat politique pour que si ce genre d'événement arrive, et bien entendu, on ne l'espère pas, si ce genre d'événement arrive, il faut que de nouveau la France réponde d'une seule voix. Il faut de nouveau si malheureusement les mauvaises images reviennent, il faut que les belles qui ont suivi, elles aussi, soient là. Parce que si on garde, sinon, on va leur permettre de gagner. Et je ne pense pas que c'est ce qu'on veut ici. Donc moi, j'espère vraiment qu'il va y avoir un dépassement aussi dans... notre façon de faire de la politique, dans notre façon de faire vivre le débat. Et sur la question des attentats et sur 2015, juste, je reviendrai sur le fait que c'est le hasard, je pense, du calendrier, dans un sens, qui amène à ce que ce soir, il y ait un match de football.
Il y en avait un le même soir.
Et il y en avait un le même soir, oui. Et justement, je trouve le symbole, je trouve le symbole important, dans le sens où il est bien de revivre aussi dans ce sens-là. Mmh. C'est de dire que, voilà, oui, il s'est passé ça le même soir, mais nous, on ne va pas le déplacer, ce match, parce qu'il s'est passé telle chose, parce que sinon, encore une fois, on leur permettrait de gagner. Là, dans le récit, on leur permettrait de gagner. Donc, moi, je suis très content de savoir que l'équipe de France va jouer ce soir, avec le même sélectionneur, d'ailleurs, qui a 10 ans. Je suis content qu'il y ait un concert au Bataclan. Je trouve que c'est quelque chose de très important. Et j'invite d'ailleurs toutes les personnes qui nous écoutent à aussi regarder la série de France Télévisions Des Vivants, qui est vraiment très, très, très intéressante sur comment on fait pour vivre après un moment aussi terrible.
Alors, après ces deux premières interventions, je vais passer la parole à Alexis Chanu, qui est le plus jeune d'entre nous. Hein, vous avez 21 ans, donc vous, si je calcule bien, vous en aviez 11 lorsque les événements du 13 novembre 2015 sont survenus. Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui, vous ? Comment vous sentez les choses ? Est-ce que vous êtes aussi pessimiste que peuvent l'être Guillaume Agulot, puis aussi finalement Thibaut Casal ?
Moi, je pense que tout a été dit en réalité, mais je pense qu'effectivement la menace est toujours présente, mais je pense que malheureusement elle s'est métastasée, elle a muté. On voit qu'il y a davantage d'auto-radicalisation en ligne, notamment c'est vrai sur les jeunes et des gens qui font partie de ma génération. On est confronté aux réseaux sociaux, à beaucoup d'embrigadement sur certains sujets, et notamment cela.
La possibilité de tomber sur des contenus djihadistes
totalement.
D'enrôlement.
Alors, c'est pour ça que je dis, donc, je pense que vraiment, nous les jeunes, on est vraiment très touchés, que ce soit homme, femme, vous l'avez très bien dit. Et malheureusement, il faut trouver des solutions à ça, parce que c'est vrai que sans solution, on subit. Il faut quand même répondre un minimum, et je pense qu'il y a plusieurs solutions, notamment combiner, pourquoi pas, nos services de renseignement, le contrôle des prisons, notamment je pense à Salah Abdeslam en prison, qui a accès à une salle de sport, à un ordinateur, qui reçoit des clés USB. Même pour revenir à... Je pense que Sarko était moins bien loti en prison que Salah Abdeslam. C'est quand même ce qui est quand même spécial.
Je n'irai pas jusque-là.
Je suis pas sûr.
Il n'avait pas de salle de... Bon bref, mais dans tous les cas... On doit toujours contrôler, on doit toujours rester vigilant, c'est ça que je veux dire. Il faut combiner ça avec la prévention aussi sociale, que ce soit dans les écoles, dans l'insertion, dans les centres de déradicalisation. Parce que c'est la seule stratégie, je pense, qui est réaliste et qui est surtout responsable. Mais vous l'avez tous dit pratiquement, c'est que faut une politique de sécurité, faut plus de moyens. Dans les temps qui courent, c'est très dur. C'est pour ça que je dis qu'on nous demande de faire beaucoup avec peu en réalité. Donc voilà, faut rester unis. Il y a une phrase que j'aime bien de Tennyson à la fin de son poème qui dit qu'il faut toujours chercher, lutter, mais surtout jamais rien céder. Et en fait, c'est ça. Il faut toujours qu'on reste unis dans les différents événements qui, je ne le souhaite pas, arriveront. Certainement vu la menace ou des trucs comme ça. Mais la question, c'est aussi de se dire que malgré cela, qu'il faut rester unis, qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé. Et on ne pardonne pas non plus. Ni oubli, ni pardon. C'est les phrases que j'essaye de dire à chaque fois. C'est ça, c'est qu'on a conscience, mais que il ne faut pas que ce soit sujet à stigmatisation, sujet à cristallisation. Il faut qu'on fasse qu'un seul. Il faut qu'on représente qu'un seul et même corps. Donc il faut bien entendu remercier les services de renseignement qui font un boulot incroyable. Je rappelle, il y avait une interview sur LCI des chefs de la sécurité intérieure qui disait que sur une année, ils surveillaient 1800 individus. 1800 individus dont certains ont perdu les traces. Mais vous imaginez la quantité de travail qui les attend. Et encore une fois, vous avez raison, c'est que malgré cela, il faut sortir, il faut vivre, parce que quelque part, j'ai envie de dire, the show must go on, quelque part. Et on ne doit pas leur donner raison sur ça. Ils veulent qu'on ait peur. La réalité, c'est qu'on n'aura pas peur, nous.
Espérons-le. Et en tout cas, effectivement, vous soulignez un point, c'est qu'aujourd'hui, on l'a vu avec cette personne sur l'île de Léron là, qui s'est radicalisée sur le net, c'est parfois c'est complètement imprévisible le moment où quelqu'un va se radicaliser à vitesse grand V et passer à l'acte aussi à vitesse grand V, et d'une manière que malheureusement on ne peut pas anticiper. Je voudrais revenir sur ce qu'ont pu dire Guillaume Agulot et aussi Thibaut Casal sur le fait que ce ne sont pas maintenant forcément des réseaux islamistes étrangers. Alors on l'a vu récemment, des militants pro-palestiniens qui sont entrés à la Philharmonie de Paris au moment du concert de l'Orchestre Philharmonique d'Israël, qui ont lancé des fumigènes. Donc certains essayent en tout cas d'importer sur notre sol le conflit entre Israël et le Hamas. Est-ce qu'on peut laisser faire ça? Il y a aussi les tensions permanentes entre la France et l'Algérie. On se réjouit ce soir de la libération de Boualem Sansal. Je vais encore le répéter, on le répétera encore lors de cette émission. Mais on a toujours cette stratégie de tension permanente du gouvernement algérien avec la France. Est-ce que ce ne sont pas autant de jets d'huile sur un feu qui ne demande qu'à s'embraser? Guillaume Agulot.
Thibaut Casal l'a très bien dit tout à l'heure, nous sommes dans une société qui ne fonctionne plus que par la violence.
Et
la tension permanente. Se parler comme nous sommes en train de le faire là, nous sommes trois avec des options, des opinions politiques qui peuvent être différentes, avec des points d'accord, des points de convergence, des points de divergence, etc. Nous allons nous parler pendant une heure, nous allons échanger, nous allons pas forcément en cherchant à convaincre les autres, mais simplement à poser des arguments en s'écoutant et en se respectant mutuellement. Ça, aujourd'hui, dans ce pays, on ne peut plus le faire. Et honnêtement, et je vous l'ai déjà dit ici sur les ondes de cette antenne, et je vous le redis, cet espace-là, qui laisse du temps aussi pour pouvoir développer une pensée, etc., qui laisse du temps, et devient aujourd'hui un espace rare, et donc précieux. Parce qu'aujourd'hui, on ne cherche plus à parler, on cherche à convaincre, on cherche à imposer. Et ce qui s'est passé, c'est-à-dire par tous les moyens, et quand je dis tous les moyens...
Oui, chercher à convaincre en soi, bon.
Voilà. Oui, mais quand je dis tous les moyens, ce qui s'est passé à la Philharmonie de Paris, ça porte un nom, j'allais dire, si je regarde les choses simplement objectivement. Ça s'appelle mise en danger de la vie d'autrui. Enclencher des fumigènes, donc un appareil pyrotechnique, dans un espace clos et confiné, avec les risques...
Et du matériau, des matériaux inflammables un peu partout, les sièges par exemple.
Les risques qu'il y a à quelques jours du Bataclan, des 10 ans du Bataclan, rentrer dans une salle de concert, dans une salle de spectacle avec du matériel pyrotechnique. C'est quoi la prochaine étape? Pour des notes de musique? Pour des notes de musique? On est aujourd'hui arrivé dans un moment où les personnes ne voient plus les choses que par leur simple spectre, leur seul spectre. Et bien ça porte un nom. Ça s'appelle d'abord du communautarisme. Je ne fonctionne qu'avec les mêmes que moi. Je ne veux plus voir que les mêmes que moi. Je ne m'entoure que des mêmes que moi. Ceux qui pensent comme moi, qui vivent comme moi, etc., etc. Et surtout, tous ceux qui ne sont pas comme moi deviennent des menaces pour moi et les miens. Et là, on sent que la bascule, elle est de plus en plus fine, de plus en plus ténue entre le communautarisme et la radicalisation. Parce que la radicalisation, ça n'est rien d'autre que l'exacerbation d'un communautarisme. Ce qui est en train aujourd'hui de se passer dans ce pays, c'est une explosion au sens premier, enfin littéral pour l'instant du mot, c'est une explosion d'abord de communautarisme, c'est aussi une explosion d'assignation et de négation, c'est-à-dire que ceux qui sont de droite pour critiquer, ceux qui parlent de gauche vont expliquer, vont utiliser la terminologie la plus ordurière qui soit. Ceux qui sont de gauche pour dire, qualifier tous ceux qui ne pensent pas comme eux, on va revenir évidemment sur facho, sur etc. etc. Bon. On n'entend plus que ça. C'est-à-dire qu'on n'entend plus des échanges, on n'entend plus de respect mutuel. Et pourtant, c'est ça qui nous a construit aussi en tant que nation. Revenons juste sur ce qui s'est passé le 13 novembre 2015. Tous les pays dans le monde, absolument tous, se demandent si leur société peut intégrer de nouveaux éléments ou pas. C'est une question sociologique qui traverse tout le monde. Tous les pays, partout. Les chercheurs ont travaillé, là tu vous imaginez bien, pas qu'en France, il y a des marqueurs minoritaires, il y a trois marqueurs majoritaires. Partout dans le monde, il y a trois marqueurs majoritaires pour savoir si une société intègre ou pas. Le premier marqueur majoritaire, c'est la culture. Parce que la culture est un facteur marqueur majoritaire, et le Bataclan, la Philharmonie. Le deuxième marqueur, c'est la gastronomie, c'est-à-dire en réalité le vivre ensemble, le faire ensemble, partager, la convivialité, etc. Bon. Le troisième marqueur, c'est le sport. Le sport est un énorme marqueur en fait, de sociabilisation, d'intégration, etc. Regardons même nous. En 1998, la France a été championne du monde. Vous étiez trop jeunes tous les deux. On a fait la fête tout un été, tout un an. Et qu'est-ce qu'on était fiers de notre équipe de France. En 2018, la France a de nouveau, paraît-il, été championne du monde de foot. Nous avons fait la fête une soirée. Et c'était pas l'équipe de France qui avait changé. En 98, on était tous extrêmement fiers, et on avait raison, de notre équipe de France qui était Black Blanc Beurre. Et on le revendiquait comme tel parce qu'elle était la diversité, parce qu'elle était la communion des différences. En 2018, cette communion-là, ce temps de communion-là, avait disparu. 2015 était passé par là. Parce que qu'est-ce qu'ils ont attaqué en 2015 ? Le sport avec le Stade de France, la convivialité avec les terrasses, la culture avec le Bataclan. Ce qu'ils ont voulu attaquer, ce que les djihadistes ont voulu attaquer ce jour-là, il y a 10 ans, c'est exactement ce qui fait que la France est encore aujourd'hui, même si c'est difficile, une machine à intégrer. Ce qu'ils ont voulu fracasser, c'est cette notion que nous avons d'un principe qui est tellement beau, mais tellement fragile, qui s'appelle la fraternité. C'est-à-dire, je considère les autres que moi. La fraternité, c'est l'exact opposé du communautarisme. Et effectivement, aujourd'hui, c'est le communautarisme qui est en train de s'imposer, de s'implanter partout. Et on est bien d'accord, pas que le communautarisme islamiste, parce que trop souvent, on le réduit à ça. Vous avez parfaitement raison de mentionner ces masculinismes qui sont d'une violence essentiellement pour l'instant encore dans les propos. Combien de temps ? Combien de temps ?
Pas que,
on est bien d'accord. Et je partage les inquiétudes dont vous nous avez fait les échos. Et il y a combien d'autres exemples ? Aujourd'hui, c'est plus que le communautarisme qui fonctionne. Le communautarisme, si on n'arrive pas à le rompre, à l'arrêter, à le casser, parce qu'il faut utiliser les mots qu'il faut, alors ça sera la fin de la fraternité, parce que les deux ne peuvent pas exister ensemble.
Oui, il y a quelque chose qui me semble d'ailleurs assez symptomatique, c'est que sur le net, on parle, les réseaux sociaux, de communauté. C'est quelque chose que moi, je n'avais jamais vu avant. Maintenant, on fait partie d'une communauté, ce qui est assez intriguant. Thibaut Casal, par rapport à la question que j'ai posée, bon, vous voyez ce qui s'est passé, la Philharmonie, les tensions qu'on a effectivement avec l'Algérie. Bon, Boualem Sansal a été libéré, mais je ne pense pas que ça va résoudre pour autant les problèmes qu'il y a entre les deux pays.
Non,
est-ce que ça aussi, malheureusement, ça ne concourt pas encore à faire à monter les tensions au sein de la société française?
Alors, si, forcément. Hein, forcément, ça fait monter les tensions, d'autant que on finit en plus par rester de l'amalgame qui va faire justement monter les communautarismes. C'est que, moi je pense notamment, j'ai toujours porter le message en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien que ce qui se passe à Gaza est un génocide, qu'on a pleuré et on condamne les attaques du Hamas. Voilà, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais derrière, je pense aussi à tous mes compatriotes juifs français qui ne trouvent pas normal ce que fait le gouvernement israélien. Et c'est pour ça que nous, par exemple, à Toulouse, Génération, on n'a pas voulu signer la pétition lancée par la France Insoumise pour arrêter le jumelage Toulouse-Tel Aviv. Parce que, en plus, Tel Aviv, un endroit dans lequel il y a eu beaucoup de manifestations contre le gouvernement de Netanyahou, pour moi, ce serait leur cracher au visage que de leur dire « Bon, bah écoutez, en fait, on vous met dans le même sac. Et donc, nous, on ne veut plus être jumelés avec vous. » Non, ça ne marche pas. Donc, il faut savoir mener des actions qui sont réellement efficaces et qui portent sur des personnes qui sont réellement coupables. Voilà. Donc, ça ne sert à rien de faire des actions pour juste faire des actions et le buzz. Bon, voilà, ça, c'est,
et
c'est...
qui met en danger, en plus,
et qui... la vie
de certaines personnes.
Clairement, quoi. clairement.
De beaucoup de personnes, en l'occurrence.
Non, mais clairement. Pour la situation avec l'Algérie, oui, moi, je ne pense pas que... Et je suis très heureux de savoir que Boualem Sansal est libéré, mais c'est sûr que je ne pense pas que c'est ça qui va apaiser les tensions avec l'Algérie. Et il y avait justement un vote à l'Assemblée il y a quelques jours par rapport aux accords de 1968. Étant prof d'histoire géo, moi j'ai eu des élèves qui sont venus me voir et qui m'ont posé des questions là-dessus. Qui m'ont posé des questions et puis qui me disaient « Mais il se passe quoi ? On ne peut plus avoir la double nationalité ? Pourquoi ?» etc., etc. Plein de questions comme ça. Où, bon, bah, du coup, je les ai... J'ai pu leur dire ce qui était vrai, ce qui était faux, etc. Mais en attendant, ils avaient vu ça sur Internet, du coup. Et typiquement, ils voient ça sur Internet et ils se disent « Bah oui, c'est vrai. » Alors eux, au moins, ils ont eu le réflexe de venir me voir.
Et poser la question.
Voilà, c'est ça. Mais ils ne l'ont pas forcément tous, bien entendu. Donc après, ils prennent ça pour argent comptant et ils se disent « Mais alors, bon, bah, qu'est-ce qui se passe ?» En fait, on, dans un sens, ils se sentent attaqués. Et le problème, c'est que ça, c'est une première pierre pour toutes les personnes qui veulent les retourner. Pour toutes ces personnes qui veulent leur dire « La France, elle t'aime pas », alors que ce n'est pas vrai. Mais ça, c'est un moyen pour toutes ces personnes qui veulent radicaliser les jeunes, c'est un moyen d'aller les attaquer, d'aller les extirper. Donc, il faut faire très, très attention. Et... à travers ça, il faut faire très très attention, comme on l'a dit tout à l'heure, aux messages politiques qu'on porte, avec l'Algérie, à la diplomatie. Parce qu'on en parlait avant l'émission. Mais c'est quelque chose de très très important, la diplomatie française et le message qu'on porte à l'étranger. Parce que on le voit bien là avec la question algérienne, ça ne peut que déboucher vers quelque chose de pire. Donc, il faut aujourd'hui que la diplomatie française retrouve ses lettres de noblesse. Nous, par exemple, à Génération, on a un député Génération, Karim Benchaïk, qui est un ancien diplomate français, qui était consul à Beyrouth. Il s'est engagé en 2022. Avant ça, il était diplomate. Il a tellement subi la casse de la diplomatie française par Emmanuel Macron qu'il a décidé de s'engager en politique contre, du coup, le gouvernement en place. Donc mais c'est pour dire, quand même, le mécanisme, et il nous le disait lui-même, je ne pensais pas un jour devenir député. Enfin, il avait une carrière toute tracée là-dedans, et c'est ce qu'il comptait faire. Donc bon, moi je pense que, comme on l'a dit, on l'a redit, mais si on veut faire en sorte de retrouver justement une société apaisée, où la fraternité a toute sa place, si on veut combattre les communautarismes, il faut faire en sorte que il faut éviter tous les amalgames, mais vraiment éviter tous les amalgames. Et je le répète parce que du coup ça a été aussi discuté. Arrêtez de parler aussi voilà que de terrorisme islamiste, de communautarisme islamiste, parce que ça va bien plus loin. Et quand on parlait des masculinistes, c'est pas que sur les réseaux sociaux. Hein. Il y a un homme, heureusement, encore une fois, nos forces de police ont bien fait le travail, mais qui a été arrêté, qui comptait assassiner des jeunes femmes dans la rue au hasard. donc les assassiner parce qu'elles sont des femmes. Donc on en est aussi voilà à ce niveau-là quoi. Donc je me rappelle aussi il y a quelques mois lorsque Aboubacar Cissé a été assassiné, je me rappelle aussi de la peur dans laquelle étaient certains de mes élèves le lendemain et que les questions qu'ils me posaient à travers ça. Donc voilà, ne faut pas tomber dans l'amalgame, personne ne l'a fait ici, donc, mais c'est toujours bien de le rappeler, parce que ça, c'est le premier pas pour finir, pour qu'ils aient raison.
Alexis Chanu, pour terminer sur ce premier sujet, sur la montée des communautarismes, sur la communautarisation à marche forcée un peu de la société française et sur les actions qu'on peut voir, comme celle qu'il y a eu à la Philharmonie de Paris, quel est votre sentiment? Comment on peut s'opposer à ça, d'ailleurs?
Moi, je pense qu'il faut prôner une chose qui est importante et qui, je pense, c'est malheureusement le but du terrorisme, c'est de continuer de... il faut continuer de dialoguer. Il faut vraiment qu'on continue de s'écouter, de débattre dans le respect. Parce que le problème du communautarisme, c'est qu'on se replie et on choisit la facilité. Donc, c'est-à-dire que c'est un peu le « qui se ressemble, ça semble », entre guillemets. Et donc, on ne cherche pas à aller voir ailleurs. On ne cherche pas à découvrir autre chose. On se renferme dans l'entre-soi et c'est valable partout, tout le temps. Et ce qu'il faut prôner, c'est vraiment ça, le dialogue, le respect. On peut débattre. Et on peut débattre sans forcément chercher à convaincre. On peut juste exposer des choses. Moi, quand je débat avec des gens, on n'est pas d'accord. J'expose les faits.
Ses convictions aussi.
Voilà. Je dis pas j'ai raison, je propose. Le problème, c'est que aujourd'hui, on a tendance, et chaque communauté, malheureusement, qui se radicalise de plus en plus, a tendance à vouloir imposer ses choix.
Alors, on va en rester là pour ce premier sujet. Je vais réitérer, en passant mes voeux de bon rétablissement à Boualem Sansal parce qu'il a été libéré, mais on sait qu'il est malade, il va être soigné en Allemagne. Et puis on va souhaiter aussi la libération de Christophe Glaize parce que lui est toujours retenu en otage en Algérie. Il doit être jugé, je crois, au mois de décembre. Bon, espérons que la diplomatie française va cette fois-ci porter ses fruits, en tout cas retrouver, comme le disait Thibaut Casals, ses lettres de noblesse. Pause maintenant dans cette émission et retour au direct dans une vingtaine de secondes. À tout de suite.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Nous sommes de nouveau à l'antenne et je suis toujours en compagnie de Guillaume Agulot, Thibaut Casals et Alexis Chanu. C'est à d'autres relations internationales que nous allons nous intéresser maintenant, celle de l'Union européenne avec l'Amérique du Sud, ou plutôt avec ce qu'on appelle le Mercosur, des relations qui concernent aussi la France sur le plan commercial. En marge de son déplacement au Brésil il y a une semaine, Emmanuel Macron s'est dit plutôt positif concernant l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur, alors qu'il était réticent jusqu'alors quant à la possibilité de le valider. Il s'est expliqué sur ce qui ressemble bien à une volte-face en invoquant le fait que les demandes françaises auraient été entendues à Bruxelles, qui aurait donné une réponse positive sur les clauses de sauvegarde et aurait souhaité aussi apporter des soutiens en particulier au secteur de l'élevage. Le président français a précisé que si ces clauses de sauvegarde étaient effectivement mises en œuvre, cet accord peut être acceptable, ce sont ses propres mots. Sa déclaration, comme on pouvait s'en douter, a soulevé un tollé à la fois dans la classe politique et au sein des syndicats et représentants du monde agricole qui ont vu une trahison de la part du chef de l'État. Je précise qu'Emmanuel Macron, qui était à Toulouse hier, s'est entretenu avec une délégation d'agriculteurs et qu'il a assuré que le projet d'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, tel qu'il existe aujourd'hui, recueillera un non très ferme de la France. Pour votre part, jugez-vous que les explications qu'il a avancées pour justifier une possible validation de l'accord sont des garanties suffisantes pour préserver notre agriculture? Je pose d'abord la question à Thibaut Casals.
Alors, c'est un sujet qui m'intéresse et... Enfin, plus particulièrement aussi parce que je suis moi-même franco-brésilien, j'ai la double nationalité. Ce qui fait que, du coup, c'est assez intéressant. Mais bon, comme vous l'avez remarqué, je ne suis pas engagé au PT ou dans un parti brésilien. Donc, moi, mon engagement, il se passe en France. Donc, j'essaye de voir ce qui est le mieux pour nous, pour le coup, sur cette question-là, en tout cas. Cet accord, c'est à la fois une catastrophe économique, une catastrophe sociale et une catastrophe écologique. Donc j'ai du mal à y voir quelque chose de bénéfique là-dedans. D'autant que, enfin, on sait très bien que les premiers qui vont souffrir de cet accord, peu importe les petites clauses qu'ils vont mettre, ce sera nos agriculteurs, nos agricultrices et, bien entendu, tous les consommateurs. Ce qui veut dire nous tous et toutes, au final. Donc, être rassuré par Emmanuel Macron, ça fait bien des années que Emmanuel Macron ne me rassure pas. Donc, et pour ce qui est de sa parole, je ne pense pas que les agriculteurs sont partis. Je ne pense pas que les agriculteurs hier sont partis en étant rassurés. Au contraire même. Hein, donc, preuve en est que peut-être il y a une vraie méfiance sur ce qui va sortir de cet accord final. Moi, je pense aussi que il va y avoir, et ça va être important qu'on scrute tous et toutes ce que vont faire nos députés européens, parce qu'il y a certes la parole de la France, mais on a des députés européens. En plus, alors aux élections européennes, ce qui est pratique, c'est que chaque chapelle y va de son côté, donc que ce soit à gauche ou à droite, tout le monde y allait de son côté, donc on pourra voir pour qui vote quoi. Et ça, c'est très important, parce que quelqu'un qui vote cet accord, c'est quelqu'un qui veut mettre en danger l'agriculture française, très, très, très honnêtement, notamment sur la question de l'élevage. Enfin, oui, il y a de la très bonne viande au Brésil, en Argentine. On va pas me dire qu'il n'y en a pas en France, il n'y en a pas en Italie. Bon, donc on a la chance aujourd'hui d'avoir l'Union européenne, où on peut justement faire des échanges entre les pays européens. Et où déjà des fois ça amène certaines catastrophes aussi là pour le coup économiques et écologiques, mais on a largement de quoi faire sans avoir besoin de faire un accord avec le Mercosur. Mais on est toujours dans cette volonté du profit économique et de pousser ce capitalisme jusqu'au bout, et voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Et au final, c'est assez drôle parce qu'on se retrouve avec un thème où la FNSEA, qui n'est pas un syndicat de gauche, hein, on peut clairement se le dire, bah, au final, on arrive à être d'accord, quoi. On arrive à être d'accord parce que même là, se rendre compte que bah, non, là, ça va pas. Ça va pas. Et de toujours penser profit avant de penser au reste, voilà ce que ça donne. Donc, moi, j'espère aussi que tout parti qui signera, qui votera pour cet accord sera sanctionné derrière dans les urnes.
Oui, alors je précise que l'ensemble des syndicats français considèrent que les clauses qu'a évoquées Emmanuel Macron ne protègent pas d'une distorsion de concurrence liée, on le sait, aux normes environnementales et sanitaires qui sont moins exigeantes en Amérique du Sud qu'en Europe. Alors, il est question d'instaurer des mesures miroirs, hein, c'est le terme qui a été employé par notre ministre de l'Agriculture, pour garantir que les produits issus du Mercosur respecteront les mêmes normes que les nôtres, avec des contrôles renforcés sur les produits importés. Bon, on peut y croire ou pas. Alexis Chanu, vous, alors, est-ce que vous êtes rassuré par Emmanuel Macron quand il dit « Non, ne vous inquiétez pas, l'accord, si il reste en l'état, je ne le validerai pas ».
En général, quand Emmanuel Macron dit qu'il ne faut pas s'inquiéter, il faut s'inquiéter. Donc je m'inquiète. Je pense qu'il n'y a plus grand monde qui a confiance à Emmanuel Macron parce qu'il fait preuve d'une inconstance qui est dangereuse. Aujourd'hui, c'est dangereux non seulement pour, vous avez eu raison sur l'écologie, qui est un sujet extrêmement important, notamment pour nous les jeunes, pour l'économie, parce que bah, c'est un peu le nerf de la guerre. Et malheureusement, vous avez raison, ceux qui vont subir en premier lieu, c'est les agriculteurs. La réalité, c'est qu'on a oublié de se poser une question, c'est que pourquoi on va chercher ailleurs ce qu'on a ici? Alors, je ne parle pas qu'en France, vous avez raison, aussi en Europe, tout ça, mais on nous rabat à chaque fois qu'il faut faire attention à l'environnement, qu'il faut limiter les déplacements, tout ça, et on va importer de la viande qui
est à l'autre bout.
Et on va nous expliquer qu'en fait, on respecte. Alors, je veux bien les clauses miroirs, tout ça, mais à un moment donné.
Ça paraît pas rationnel, vous voulez dire,
non,
à la base.
C'est un sujet qui est extrêmement complexe. Alors, moi, j'ai d'une confiance, je veux dire aveugle, mais je fais vraiment confiance aux députés européens de ma famille politique, donc notamment que ce soit François-Xavier Bellamy ou Céline Imer, qui est agricultrice dans le Tarn et qui connaît bien ce sujet pour le coup. Et le Mercosur, c'est un sujet qui est très sensible, et malheureusement, encore une fois, c'est les agriculteurs qui vont prendre à chaque fois, qui vont être délaissés. C'est des filières qui vont fermer, pourtant qui faisaient la fierté de notre pays. Et au final, c'est des gens, non pas qui vont disparaître petit à petit, mais c'est des agriculteurs qui vont mourir, tout simplement. Donc il faut qu'on se pose des questions. Et alors, je considère qu'ils ont raison de manifester, qu'ils ont raison d'exposer leur colère, parce qu'elle est légitime. Parce que même pour nous, on a envie de manger, je ne veux pas être chauvin, mais c'est important qu'on ait qu'on cultive nous-mêmes pour nous-mêmes.
Oui.
Je trouve ça vital.
Bah, d'autant plus que ça a toujours été une des forces de notre pays. Alors, Guillaume Agulot, vous, comment vous voyez les choses? Est-ce que vous faites confiance à Emmanuel Macron?
Non.
Bon, moi,
c'est
clair.
Ça, c'est clair. Il y a quand même une... Enfin, on est en train d'assister au niveau de l'agriculture à la traduction, à la transposition de ce qu'on est en train de voir dans plein d'autres domaines. Le commerce de détail. Combien de séries, de magasins qui revendent, par exemple, des vêtements sont en train de s'effondrer. Il y a une particularité, là, pour le coup. C'est que, pour le coup, la menace, elle ne vient pas de l'Est, elle vient de l'Ouest.
Oui.
C'est la nouveauté.
C'est vrai.
Parce que Chine nous arrive, ben, comme son nom l'indique, de Chine, de l'Est. Mmh. Amazon, qui est une boîte américaine, ça nous arrive de l'Est. Tous ces magasins-là, de shop en ligne, évidemment, tout ça, c'est... eh bien, on est en train de le vivre sur l'agriculture, et là, cette fois-ci, ça vient du Mercosur, de l'Ouest. Mais globalement, ce qui est en train de se passer, c'est la traduction très concrète ou concrète d'années de politique de... Je ne vais même plus dire de libéralisation, de dérégulation, où on a accepté... Pourquoi ? De déréguler nos propres cadres pour permettre à des économies très agressives qui sont en dehors de tout cadre, ou d'un cadre très minimaliste, d'imposer leur propre cadre à ce que nous avions au préalable. Je vais juste peut-être mettre un bémol, et encore je ne sais pas trop par rapport à ce que vous avez dit, Thibault. Vous avez expliqué que c'est une catastrophe économique, que c'est une catastrophe sociale, que c'est une catastrophe écologique. Moi, mon bémol, c'est que je ne sais pas dans quel ordre mettre les trois mots.
Ah oui, non, mais, bien sûr.
Voilà. Mais très clairement,
il n'y a pas d'ordre, hein. Mais oui.
Très clairement, nous sommes exactement là-dedans. Nous sommes dans un système qui est une déferlante. Alors non, je ne fais pas confiance à Emmanuel Macron. D'un autre côté, qu'est-ce qu'il peut faire tout seul? Parce que, à côté, mitoyen de la France, il y a un énorme pays qui s'appelle l'Allemagne. Et que l'Allemagne, ça fait longtemps qu'ils ont accepté ce principe du Mercosur. Non pas qu'ils n'aient pas eux-mêmes une agriculture. Hein, parce qu'eux, ils vendent des bagnoles. Eux, ils vendent des voitures.
Eux, ils vendent
parce que le Mercosur,
d'un autre côté,
c'est dans les deux sens.
Oui, bien sûr.
Comment on fait pour imposer des règles miroirs à des pays du Mercosur qui ne savent même pas que sont nos propres règles environnementales, quand on est infichu de discuter correctement, de négocier conjointement avec ce qui était, me semblait-il, c'est ce qu'on me disait, on me berçait avec ça dans mes vertes années, avec l'axe Paris-Berlin, la construction européenne, Paris-Bonne, hein, à mon époque.
Le couple franco-allemand.
Le couple franco-allemand, etc., qui ne sait plus se parler,
tant
qui ne sait plus agir conjointement. Et c'est-à-dire qu'il ne sait plus à quoi a servi la construction de l'Union européenne. La construction de l'Union européenne, rappelons-le, c'était un pour arrêter de se faire la guerre. Deux pour imposer l'impossibilité du retour de la guerre en imbriquant tous nos territoires, tous nos pays, toutes nos nations, c'est-à-dire en posant un destin commun. On n'est plus capable de penser un destin commun. Comment voulez-vous qu'on aille discuter avec des pays qui sont de l'autre côté de l'océan Atlantique en Amérique du Sud, qui ont pour seul objectif de continuer à déforester tant et plus l'État de Brasilia pour continuer à faire de la viande, etc. etc. C'est-à-dire, je pense honnêtement qu'on est en train de porter sur le Mercosur, parce que c'est facile d'aller chercher de l'autre côté à l'Est, notre incapacité à construire un projet commun avec nos partenaires de premier rang, de premier niveau, de première proximité.
Alors, effectivement, le point que souligne Guillaume Agulot est fondamental. Thibaut Casal, quand on l'écoute, là, qu'est-ce qu'on se dit? Il faut sortir de l'Union européenne ou il faut s'en emparer? Mais alors, de quelle façon on s'en empare?
Bien entendu, aujourd'hui, il y aurait... quitter l'Union européenne, ce serait une erreur immense. Si la France en arrivait là.
Je précise que je suis entièrement d'accord avec ce
que
vous avez le droit à la question aussi, bien entendu.
On ne quitte pas l'Union européenne, surtout pas.
Bien sûr. Non,
même
bien
la question
sûr.
Est volontairement provocatrice, vous l'avez compris.
Ce qu'il aurait fallu, c'est peut-être bien regarder ce qu'était l'accord de Maastricht. Ce qu'il aurait fallu, c'est respecter le référendum des Français
de 2005.
En 2005. Ce qu'il aurait fallu, c'est ne plus avoir des présidents successifs qui disent oui à Angela Merkel, à tout.
Et puis je rappelle que la présidente de la Commission européenne aujourd'hui est une Allemande.
Est une Allemande. Et on l'a d'ailleurs vu lorsqu'elle est allée, j'ose même pas dire négocier, avec Donald Trump. Où en plus, c'est une scène surréaliste à la fin, où elle dit à Donald Trump, vous êtes dur en négociation, et qui lui répond, oui, mais juste. Alors qu'il venait de signer un accord qui, pour l'Union européenne, est un accord mais où on ne s'y retrouve à aucun moment, à part, oui, si on est de l'industrie automobile allemande. Bon, et c'est vrai que là, on en revient un peu sur la même chose sur la question du Mercosur. Non, ce qu'il faut au niveau de l'Europe, c'est de permettre à cette Europe qui n'est qu'une Europe économique de enfin se dépasser à ce niveau-là, de enfin devenir... quelque chose que
on dit ça
on porte
depuis
à gauche, bien sûr.
On dit ça depuis combien de temps ?
Bien sûr, bien sûr. Sauf que, bon, le problème, c'est que déjà, nous, ne serait-ce que nous, en France, pendant très longtemps, on a eu des partis qui soit fermaient les yeux sur la question européenne, soit qui nous expliquaient qu'il fallait la quitter. Donc, il y avait quand même un juste milieu... qu'il faut atteindre, et le résultat des dernières européennes ne va pas dans ce sens-là, hein. Par exemple en France, hein, avec un Rassemblement national qui fait le score qu'il a fait, donc on n'en est pas là. Oui, il faut réformer l'Europe. Il faut réformer l'Europe parce que ça peut réellement... quand on voit les menaces, comme le disait Guillaume Agulot, de l'Est, la Chine, les menaces de la Chine, de la Russie, des États-Unis, parce que quand on voit les États-Unis de Donald Trump, c'est une menace... quand on voit l'Afrique, qui est un continent dans lequel justement la Chine, la Russie est en train de s'implanter de plus en plus, qu'on voit le Mercosur. Alors voilà, le Mercosur, c'est vrai, si on est sud-américain, on se dit bon bah enfin ils essayent au niveau économique de rivaliser avec les autres puissances, alors que ça fait des années qu'ils se font marcher dessus par les autres. Mais bon, en attendant, nous là au niveau européen, bien voir que cet outil fantastique que peut être l'Union européenne, qu'il peut être. Parce qu'il ne l'est pas actuellement, justement. Et c'est là où il faut...
c'est toujours ce qu'on en fait.
Et c'est là où on doit vraiment arriver à se dépasser sur cette question-là. Et je pense qu'en plus, au niveau européen, on peut avoir plein de partenaires sur cette question-là, que ce soit en Espagne, que ce soit alors vraiment pour l'Espagne et le Portugal, qui sont ceux qui me viennent le plus facilement à l'esprit. Parce que je pense que c'est celles et ceux qui, et depuis plusieurs années, portent aussi cette volonté de dépasser cette Europe économique, quoi.
Alexis Chanu, est-ce que vous êtes d'accord avec Thibaut Casal? Lui, comment vous voyez les choses, hein, sur la place qu'on peut avoir en Europe aujourd'hui pour influer et peser un peu plus face à l'Allemagne?
Une chose est sûre, déjà, évidemment, sortir de l'Europe, c'est totalement dérisoire et has-been, j'ai envie de dire. C'est un sujet qui aujourd'hui n'est pas réaliste. Je suis convaincu aujourd'hui, s'il y a un même référendum pour sortir de l'Union européenne, la réponse serait non. Évidemment, parce que ça serait compliqué, ça serait de nous mettre dans le mal. Oh, j'en suis convaincu. Mais vous avez raison, il faut privilégier dans tous les cas les accords économiques, surtout dans l'espace de l'Union européenne. Tout d'abord, vous avez raison, il faut réformer l'Union européenne, parce que pour beaucoup de concitoyens, il y a une défiance des instances européennes. Déjà parce que pour avoir fait du droit, c'est très compliqué à comprendre. C'est un schmilblick, mais alors je vous en dis, enfin, c'est très compliqué. C'est vrai qu'on a ce sentiment, effectivement, que c'est un sentiment, encore une fois, que ben, c'est peut-être pas toujours avantageux de faire sur certains accords européens. On le voit aujourd'hui avec le Mercosur, tout cela. Et donc, il faut réformer, il faut retrouver cette confiance, sans toucher forcément aux souverainetés, parce que je pense que là, pour le coup, c'est toucher quelque chose qui est extrêmement sensible. Chacun
l'équilibre est subtil. Hein.
Chacun est attaché à son pays. Donc voilà, encore une fois, retrouver des accords économiques dans l'Union européenne, parce que vraiment, bon, forcément, l'Union fait la force, mais encore faut-il la vouloir jusqu'au bout.
Je vais donner le mot de la fin à Guillaume Agulot. Comment on réforme l'Union européenne et comment la France y reprend toute sa place face à l'Allemagne et à la présidente allemande actuelle de la Commission européenne?
Allez, on va essayer de terminer sur une note un peu plus positive. Comment on réforme? En le voulant.
Ça, c'est
je vais même aller encore plus loin.
La volonté, effectivement.
En le désirant. Et c'est-à-dire en rendant cette Europe désirable. En se disant qu'elle est infiniment plus... qu'elle peut être effectivement infiniment plus protectrice qu'elle ne peut l'être aujourd'hui. Mais en se disant que c'est aussi... par ce qu'elle peut nous offrir, par ce qu'elle peut nous proposer, que nous aurons envie de nous engager avec elle. Concrètement, soyons très très concrets, pourquoi on est parfaitement capable de négocier des accords commerciaux à l'échelle européenne? Pourquoi on n'est pas capable de négocier des accords syndicaux à l'échelle européenne? qui poserait pas l'intégralité du champ syndical, mais qui serait, par exemple, la définition d'un salaire minimum commun, qui serait la définition d'un temps de formation commun, imposé obligatoirement par, pour les ouvriers, pour les salariés.
Pedro Sanchez a proposé ça, d'ailleurs, le salaire minimum européen.
Bien sûr. Oui, ça peut être un salaire minimum, ça peut être... Enfin, il y a toute une série de choses au niveau de ce que j'appelle l'Europe du travail. Et ne me faites pas dire ce que je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut revenir à une Europe bolchevisée. C'est absolument pas le cas. Il faut revenir à une Europe coordonnée. Et revenir à une Europe coordonnée, c'est déjà recommencer à donner envie aux gens, aux individus, de se dire « il vaut mieux plus d'Europe ». Parce que plus il y aura d'Europe, et plus mes intérêts, mes souhaits, seront garantis, seront protégés. Une Europe de la santé. On a fait l'Europe des déplacements, c'est merveilleux les déplacements. C'est fabuleux. On n'a pas fait l'Europe des déplacements pour nous permettre d'aller à Corfou une fois par an, hein. On a fait l'Europe des déplacements pour permettre la libre circulation des personnes, oui, des capitaux.
Économique.
C'est une libre circulation économique. On dit, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable de faire une Europe de la santé, une Europe du soin? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de faire une Europe de la lutte contre les feux de forêt? On n'a pas un enjeu commun, là. On évoquait les questions d'écologie. On n'a pas un enjeu commun. L'Europe est en train de brûler partout. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la capacité... On l'a industriel, on l'a économique, il faut arrêter de se raconter n'importe quoi, d'établir une force de qui serait là, pour le coup, littéralement, une force de frappe.
Une force d'intervention.
Une force de défense interne, avec un nombre conséquent d'appareils, d'avions, plutôt que d'arrêter de se dire, moi j'en ai 3, toi t'en as 7, etc., et je peux t'en prêter. On en met ce qu'il faut, et quand il y en a besoin dans tel territoire, c'est pas 2 ou 3 qui y vont. C'est 20, 30, 40, ce qu'il faut, qui règle le problème avant de devoir intervenir ailleurs. On sait très bien que ça va être le cas. Pourquoi on n'est pas capable de faire ça? C'est bien joli de parler d'avions de défense européenne, et les conflits qui s'ouvrent à l'Est nous expliquent, oui, qu'il va nous falloir des chars de combat, qu'il va nous falloir européens, intégrés européens, qu'il va falloir des avions de combat, qu'il va falloir des avions de transport. Tout ça, on est capable de les faire. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable? Je pense que ce qui nous manque, clairement, c'est de la volonté, et c'est aussi du désir, vouloir s'engager.
Et vous croyez que s'il y avait un référendum aujourd'hui, comme le disait Alexis Chanu, les gens voteraient en ce sens?
Ça dépend.
Moi, je vais réserver ma réponse.
J'ai quelques doutes, moi,
je vais réserver ma réponse.
Mais effectivement, bon, redonner le désir. À une époque, tout le monde était pour l'Europe sans trop savoir de quoi il s'agissait. Mmh. Aujourd'hui, les gens, me semble-t-il, sont beaucoup plus frileux. Cette 208e mêlée de l'info est terminée. Merci à tous les trois d'en avoir été les invités. Merci également à Coraline Camebrac, la réalisatrice de cette émission. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Et merci bien sûr à tous nos auditeurs fidèles chaque semaine à l'écoute de La Mêlée. Rendez-vous jeudi prochain. À bientôt. We'll be right back.